La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, chers auditeurs. Peut-on s'inspirer du sport de haut niveau pour encadrer une équipe dans un environnement en pleine mutation? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir M. Mathien Blanc. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Vous êtes ancien joueur de rugby à 15, manager général et directeur exécutif. Mathieu, avant d'aborder votre vision du manager et les conditions de réussite dans un environnement en pleine mutation, pourriez-vous vous présenter brièvement?
Écoutez, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Mathieu Blin, j'ai 42 ans. J'ai fait une carrière de rugbyman professionnel au Stade français, donc l'équipe de Paris, là où je suis né en 1977. Je rigole toujours puisque le fait d'être rugbyman qui appartient plutôt au sud-ouest est toujours un petit peu rigolo quand on dit qu'on est parisien, même si l'Île-de-France détient le plus grand nombre de clubs et de licenciés, donc avec des pépites, et maintenant avec le métro 92 ou le club de Massy, plusieurs clubs de très haut niveau. J'ai arrêté ma carrière en 2010 et j'ai tout de suite enchaîné en prenant la présidence du syndicat des joueurs professionnels qu'on appelle Proval, puisque comme c'est un métier, il y a une convention collective qui a été écrite à partir de 2005 et qui ne cesse d'évoluer. Et on pourra même en reparler puisque l'évolution réglementaire est au cœur des différents systèmes. En 2012, je suis allé à Agen, dans le Lot-et-Garonne, en tant qu'entraîneur des avants, puisque dans le rugby, il y a les avants et les trois quarts. Les avants, c'est ceux qui font la mêlée. D'habitude, les très costauds. Moi, je ne l'étais pas énormément, j'étais bien entouré. Et les trois quarts, c'est ceux qui sont rapides. Et je suis passé en 2013 manager général du club, c'est-à-dire que j'avais en charge l'ensemble du pilotage de l'équipe professionnelle. Et je suis passé sur les trois dernières années directeur exécutif, donc j'avais aussi en charge le développement administratif, donc communication, marketing, le commercial, etc. L'aventure s'est arrêtée en 2017 après 5 ans extrêmement riches. J'ai décidé moi de ne pas poursuivre puisque l'engagement était total. C'est un métier où on est pris H24, 365 sur 365, donc les 5 ans ont été très riches mais très très épuisantes. Et puis je suis maintenant consultant pour la chaîne de télévision Canal+ sur les matchs de Top 14 ou de Pro D2 et les émissions le Late Rugby Club ou le Canal Sport Club.
Merci Mathieu de cette présentation. J'aimerais que vous partagiez avec nous votre vision du management. Quelles sont les qualités d'un bon manager?
Alors manager sans en rajouter, c'est donc manager, c'est-à-dire en tout cas s'occuper des personnes avec qui on travaille, donc c'est de s'occuper d'une équipe, on parle donc de collectif. Dans le rugby français par exemple, une des grosses erreurs c'est de penser que le manager est celui qui sait tout et sur à peu près tous les domaines, alors qu'on a bien conscience et bien connaissance dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la recherche, que le management c'est finalement quelqu'un qui est généraliste, c'est quelqu'un qui doit évidemment connaître précisément différents domaines de son écosystème, mais sans forcément en être le spécialiste. Et lui, pour le coup, il est en charge, le manager, d'essayer de composer une équipe avec des responsables dont la grande force est d'être spécialiste d'une activité ou d'une autre. Je pense que le manager, on peut l'appeler comme est le médecin généraliste, à la différence d'un spécialiste, puisqu'il doit pouvoir toucher un petit peu à tout et pouvoir répondre et s'adapter, on en parlera, à différents champs d'activité. Et donc, on parle aussi bien sûr de management et d'une manière de manager. Il y a le participatif, il y a l'autoritaire, il y a le consultatif, il y a etc. etc. Ça, c'est souvent en fonction de ce qu'est la personne. Et je pense que donc un bon manager est un bon généraliste qui n'a pas peur de présenter à ses équipes comment il se sent et comment il se voit. Ça veut dire que il doit évidemment parler de là où il se sent très à l'aise et dont il pense être en capacité d'être très précis, et puis aussi de parler de là où il est un peu moins connaisseur, un peu moins spécialiste, et dire la manière dont il va se comporter. L'autoritaire, s'il le présente, son ton sec ou un peu saccadé ne sera jamais mal reçu puisqu'il aura été présenté d'avance et les personnes qui le reçoivent ne penseront pas qu'il s'adresse à elle de cette façon-là puisqu'il ne serait pas sympathique, par exemple. Ou au contraire, le manager qui est plus dans la participation doit aussi l'annoncer puisqu'il passera son temps à poser pas mal de questions ou à challenger les personnes et à leur demander d'être vraiment extrêmement active. Et la première réaction serait peut-être de dire mais celui-là ou celle-là, mon manager ou ma manager, elle connaît rien ou quoi? Et en fait, non, pas du tout. Ce sera sa manière à lui ou à elle d'être dans la production collective. Donc pour moi, ce sont voilà, ces deux choses importantes. Le fait d'être généraliste, d'être très clair dans sa manière de fonctionner dès le départ, qui fait que un manager a toutes les chances d'être un ou une bonne manager.
D'accord, merci beaucoup. Oui, effectivement, ce que je retiens, c'est réunir autour d'objectifs, mais ce que j'ai également retenu, c'est le fait de pouvoir et savoir faire part de ses émotions, de ses forces, de ses faiblesses également en tant que manager.
Bah oui, parce qu'on oublie très souvent, je me permets juste de rebondir, on oublie très souvent dans n'importe quel écosystème dans lequel on est, qu'on est en lien avec des personnes humaines. Alors, des fois, on se rassure, des fois, on s'appuie, des fois, on rentre trop sur les systèmes, les process, les méthodologies. Il n'empêche que tout ça s'est incarné et vécu par des êtres humains. Et donc, une des premières données du manager, c'est de pouvoir être dans la relation humaine. On parle souvent de ça, pas forcément au bon moment, puisque on le rappelle et beaucoup de gens en parlent sur des situations soit très positives, soit sur des situations qui sont très complexes. Et on parle souvent des situations très complexes. Et des fois, on a l'impression d'être un petit peu démago, ou que c'est un petit peu naïf, ou un petit peu ronron, de dire que finalement, il faut remettre les relations humaines au milieu des échanges. Mais pourtant, c'est la seule et unique vérité, puisque c'est la chose la plus factuelle. Les hommes et les femmes sont réunis à des moments donnés pour produire des choses.
Alors, je vais rebondir sur votre présentation et introduction. Dans les collectivités territoriales ou dans l'entreprise, comme dans le sport, des objectifs sont présents avec un cadre réglementaire qui ne cesse d'évoluer, et ça vous l'avez souligné. Dans ces conditions-là, comment avoir un management durable?
Je pense que le management durable, il s'appuie notamment sur ce que vous évoquiez, dont j'ai parlé, c'est-à-dire le cadre réglementaire, parce qu'on sait souvent que ce cadre, alors même s'il diffère en fonction des métiers, ou des écosystèmes dans lesquels appartiennent ces métiers, il est souvent, lui, très évolutif. Les règles changent, les obligations changent, les possibilités changent, et tout ce cadre-là, dont des personnes d'ailleurs sont des spécialistes, et donc c'est bien de pouvoir mettre dans son équipe, quand on est manager, un ou une spécialiste qui sera toujours au fait de ces changements, c'est finalement d'anticiper. Je pense que le manager, il a ce rôle-là, d'avoir ce coup d'avance. La simple production dans le sport d'une préparation d'un match et la production du match, gagné-perdu, si on ne s'arrête qu'à ça, gagné-perdu, finalement on oublie à chaque fois qu'il va y avoir la semaine d'après une semaine supplémentaire d'entraînement pour aller refaire un autre match. Et donc le coup d'avance, le coup d'après, dans le monde du sport, c'est anticiper le joueur ou la joueuse qui avait déjà beaucoup joué, dont on sait qu'elle pourrait être encore plus fatiguée après un match, donc peut-être de la mettre au repos. On sait que lorsque l'on joue en hiver ou en été, les conditions ne sont pas les mêmes. Et donc tout ça, quand on le duplique à un autre métier, à un autre environnement, le manager doit montrer à ses équipes qu'il a toujours cette capacité à pouvoir parler, évoquer et donc anticiper le coup d'après. C'est d'ailleurs extrêmement rassurant, puisque on sait bien comment on peut être anxiogène les changements. Dans la théorie du changement, on sait que ça crée un niveau d'anxiété très important chez les différentes personnes. Donc je pense que ce coup d'avant qui est très parlant lorsqu'on parle d'adaptation, d'anticipation, est vraiment quelque chose que le manager doit mettre en avant et s'efforcer de faire. C'est pour ça que d'être généraliste est un très grand avantage, puisque pour pouvoir anticiper, il faut avoir un petit peu de temps, il faut pouvoir avoir des moments où on se met en hauteur, où on prend de la distance. On n'est pas simplement dans la production de ce sur quoi le collectif est engagé. Et pour le coup, là, ce sont les spécialistes de différents domaines qui prennent le relais dans la production, dans l'écriture, dans le rendu de différents champs. Le manager, lui, étant en train de prendre un peu de distance pour pouvoir avoir un peu d'avance.
Mais en tout cas, c'est de l'ancien entraîneur des avants du 15 de France, Didier Rottière. Il soulignait, dans le rugby, le but d'un entraîneur est de savoir s'adapter au physique, aux aptitudes de tous les joueurs, pour trouver l'harmonie des différences. Qu'en pensez-vous? Est-ce transposable en dehors des terrains de sport?
L'harmonie des différences, on pourrait aussi parler de complémentarité entre les personnes. Alors dans le monde du sport, notamment dans les sports collectifs, on parle de plan de jeu, la manière dont on joue, et il y a un peu deux modes qui s'opposent. Est-ce qu'on a une conviction absolue et arrêtée d'un plan de jeu et on fait rentrer l'ensemble des joueurs ou joueuses que l'on a à disposition pour qu'ils répondent à ce plan de jeu, ou est-ce que l'on adapte un plan de jeu en fonction des qualités de chacune ou de chacun? Je suis plus, moi, adepte de la deuxième option, c'est que lorsqu'on est dans une équipe, elle n'est pas la même en fonction du budget du club, elle n'est pas la même en fonction de la culture et de l'histoire de là où elle se trouve. Paris ne joue pas de la même manière qu'à Clermont-Ferrand, qui ne joue pas pareil qu'à Biarritz, qui ne joue pas pareil qu'à Perpignan. Donc je pense que le manager, il a ce devoir de faire une analyse et un diagnostic de l'environnement, évidemment de la matière première, c'est-à-dire les joueuses ou les joueurs, mais aussi de l'écosystème dans lequel il est. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait transposable dans tous les métiers. On parle de benchmark, on parle de études comparatives, on parle de concurrence. De faire toutes ces études-là les plus précises possibles pour essayer d'avoir des photographies elles-mêmes les plus précises, évidemment, c'est pouvoir déjà anticiper un petit peu. On revient à ce coup d'avance. Ah oui, à côté, ah oui, cette concurrence-là, elle fait de cette manière-là. Eh ben, il va falloir soit faire comme elle ou différemment, mais avec nos armes. Et puis, c'est une manière de pouvoir montrer à chaque individu qui construit le collectif que ce sont bel et bien elles et leurs qualités qui vont pouvoir mettre tout ça en musique. Alors, vous savez, on parle souvent de fiches de poste pour une équipe de rugby. Il y a énormément d'indicateurs qui remplissent une fiche de poste et un 3 carrel n'a pas la même fonction qu'un pilier. Un pilier n'a pas la même fonction qu'un talonneur. Je trouve que dans la fiche de poste, il y a quelque chose qui est un petit peu fermé, pour le coup, et qui me déplaît un petit peu. Et je préfère parler de fiche de mission. Alors, évidemment qu'un géomètre n'a pas le même travail qu'un avocat. Évidemment qu'un boulanger n'est pas pareil qu'un formateur. Et c'est un formateur dans les ressources humaines n'est pas les mêmes qu'un formateur dans le droit du travail. Et on se rend bien compte qu'à l'intérieur, il y a quand même plein de choses qui peuvent, à un moment donné, se croiser, se réunir. Et donc, je pense que ces missions sont encore plus précises puisqu'elles permettent de réellement parler avec la personne qui est en charge de telle ou telle activité. Et d'ailleurs, quand on est sur ces missions-là et qu'il y a une équipe, ça nous permet de faire émerger que différentes personnes, alors qu'elles n'ont pas le même poste, font les mêmes missions. Donc, soit c'est quelque chose qui est bien pour la structure, soit c'est quelque chose qui permet de redéfinir le cadre pour dire « Non, toi, ce n'est pas à toi de faire cette mission-là, mais c'est bien à l'autre personne. Donc, ne sois pas inquiète, si tu ne le fais pas, tu ne seras pas regardé d'un mauvais œil ou on ne pensera pas que tu es un petit reflant. » La deuxième chose, c'est que quand on est sur ces fiches de mission, ça permet de pouvoir discuter là aussi très en profondeur sur l'être humain. Il y a plein de gens qui ont des postes et finalement qui répondent au mieux. Mais des fois, le manager, il se rend compte que la personne n'a pas forcément toutes les compétences absolument dans le champ de l'activité, ce pourquoi elle a été engagée. D'ailleurs, l'écriture d'une fiche de poste, des fois, se fait par des personnes qui ne connaissent pas la réalité du travail. Et donc, on voit bien qu'il peut y avoir un gap. Et l'être humain, il a plutôt tendance à dire que quelque chose ne marche pas, souvent quand il n'est pas forcément très en confiance ou qu'il ne se sent pas armé complètement pour pouvoir répondre à ça. Et donc, ça permet de pouvoir parler de formation continue. Et chaque personne, même le manager, doit pouvoir se former tout au long de sa carrière pour pouvoir justement se remettre à jour et se remettre en confiance sur la réalisation de ce pourquoi il a été embauché. Donc, Didier Retiens, c'est très intéressant de parler de cette adaptation, de cette complémentarité, parce qu'on dit souvent dans le sport que l'addition de très 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 bons joueurs ou de très 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 bonnes joueuses ne suffit pas forcément pour la performance. Alors qu'on pourrait dire, pourquoi il y a les meilleurs à chaque poste, normalement le résultat c'est que l'équipe est la meilleure. Non, puisque là on revient à la manière de vivre ensemble et de partager le travail d'une semaine, de partager la capacité à pouvoir être sur des engagements ou sur des motivations communes lors d'un match. Et des fois, on s'aperçoit qu'un joueur ou une joueuse qui est un petit peu moins bonne dans les indicateurs stricto facto de la performance à un tel engagement, une telle capacité d'abnégation, de sacrifice, de dévouement, et bien que la complémentarité avec un très 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 bon ou une très 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 bonne permet un résultat qui lui est encore plus maximisé.
Et j'ai bien retenu à plusieurs égards, vous avez employé le terme de confiance, qui est effectivement vraiment très 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 important.
Il est fondamental, c'est sûr, il est plus que fondamental. Il faut qu'on se rappelle quand même tous adultes que nous sommes, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, l'indicateur de confiance ne disparaît jamais depuis le moment où on vient au monde. Les enfants qui sont dans des environnements qui les mettent en confiance sont souvent des enfants qui se développent et qui arrivent à pouvoir être assez correctement armés pour affronter la vie, puis affronter les autres et pouvoir être dans le partage. Quand on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et même si on a eu les plus grandes responsabilités avec des titres évidemment honorifiques énormes, avec des rémunérations énormes et avec une place très importante dans l'écosystème dans lequel on appartient, il n'empêche que ces personnes restent des personnes qui doivent être en confiance et donner confiance. Ça veut dire que le manager, là pour le coup, pour revenir au fil conducteur de notre petite conversation, le manager doit savoir mettre en confiance.
Mathieu, dans le rugby, les joueurs n'ont pas peur de l'engagement et je crois que dans votre vocable, ils n'ont pas peur de se prendre des tampons. Un cadre va parfois également au carton. Qu'est-ce qui les motive ? Comment créer les conditions de l'engagement ?
Ça, il est très important pour pouvoir à la fois définir des objectifs, à la fois relever les indicateurs de performance, donc de revenir au fait de dire que les personnes sont suffisamment engagées. On se trompe un peu souvent et on oublie de revenir au tout départ. Quand on donne des objectifs, c'est une étape qui est minimisée dans son importance et les dégâts qu'elle peut avoir. Si on est sur des objectifs qui sont bien trop hauts, alors que sur le papier, on ne pourrait pas faire plus motivant, on a de grands risques lorsque l'on met en œuvre le plan de jeu ou la stratégie ou le process de se retrouver à un moment donné de décrochage, puisqu'il y a toujours des temps faibles dans une année, quels que soient les métiers et quels que soient les écosystèmes dans lesquels on est. Et là, pour le coup, la définition de l'objectif au départ, dont souvent quand même le manager est garant, même s'il reçoit des directives de sa direction, d'un président, d'un vice-président, d'un directeur général, on s'aperçoit qu'on perd énormément de temps, voire on fait décrocher tout le monde. Donc je pense que le fait de définir des objectifs avec le ressenti de chacun, et donc donner de la confiance en chacun de pouvoir donner son avis sur tel ou tel objectif. Ensuite, quand on est sur une partie de rugby, par exemple, on pourrait dire mais je sais pas pourquoi tu as joué comme ça, on dirait que tu t'en fiches, ou t'as rien produit, tu t'es pas engagé. Ouais, mais alors qu'est-ce qui fait qu'il ne se soit pas engagé? Alors là aussi, il y a évidemment plein de choses qui peuvent l'expliquer. Et on parle de motivation. Quelqu'un qui n'est pas motivé au départ ne redonne pas un engagement exceptionnel. Quelqu'un qui doit aller sur un objectif qui, même inconsciemment, est peut-être inatteignable, n'arrivera pas à mettre des conditions d'engagement et donc de motivation suffisantes pour pouvoir le réaliser. Donc, il me semble que cette définition d'objectif au départ est absolument fondamentale. Elle permet de créer un référentiel commun, ça veut dire un langage, et on a chacun dans nos différents métiers des codifications, des termes, des mots qui, lorsqu'on l'en parle très rapidement, sont presque incompréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas du métier, et ça vaut pour toutes les professions. Ce référentiel commun est un vrai socle sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir redévelopper et repréciser le cadre. Et évidemment, pour être certain que la personne soit motivée et donc s'engage, on revient à une connaissance la plus précise possible des personnes, puisque les personnes ne sont pas constituées de la même manière. Certaines vont être motivées pour le salaire qu'elles ont en fin de mois, d'autres personnes vont être motivées pour le sens du travail qu'elles accomplissent, certaines vont être motivées pour ce que ça représente par rapport à eux-mêmes, leur famille ou des amis. Donc lorsque le manager connaît précisément ce qui est important pour chaque personne, il a la main pour pouvoir augmenter, diminuer, réguler ou en tout cas discuter de la motivation de chacun pour un engagement collectif.
On pourrait dire en fait que l'engagement naît d'un mélange de plaisir et de sens.
Le plaisir est fondamental et je trouve ça génial qu'une personne avec vos responsabilités en parle. On se trompe souvent. Les All Blacks, que tout le monde connaît, les Néo-Zélandais qui font le haka lorsqu'ils font des matchs, on a une sensation que, en fait, c'est facile pour eux. On oublie évidemment la somme de travail, on oublie qu'ils ont été sur une identification de précision sur chaque personne, et on oublie surtout que la vie qu'ils vivent au jour le jour met la notion de plaisir au cœur de tout. puisqu'on sait très bien que lorsqu'on a plaisir à faire les choses, ben on est de toute façon plus motivé à les répéter, et donc on met un engagement qui est de toute façon plus important. On pense que le plaisir, ce n'est qu'associé à la fête ou au côté un petit peu ludique, et en aucun cas, la fête ou le ludique serait contraire à la très haute performance, puisque on est avec des hommes et des femmes, on n'est pas avec des robots, et donc cette notion de plaisir est, je pense, un vrai indicateur à pouvoir développer.
Pouvons-nous dire qu'un bon entraîneur, manager, est celui qui accepte que ses collaborateurs sortent du cadre, fassent un pas de côté pour écrire l'histoire de demain?
Bah oui, et 100 fois oui. On peut prendre une comparaison avec le rôle parental. Chaque parent essaye de faire au mieux pour faire grandir son enfant, et faire au mieux, c'est de à la fois partager des règles communes au regard de la loi, au regard du vivre ensemble, au regard de l'autorité, mais au regard du plaisir, de l'émotion, de la créativité, de la découverte. Et au bout d'un moment, lorsque l'enfant grandit, lorsqu'il devient adolescent ou jeune adulte, il est en train de s'armer pour décider d'aller sur une voie. Et sa voie, elle est à l'intérieur d'un cadre. On pense toujours que le cadre, c'est quelque chose qui est défini, fermé et point final. Non, le cadre, il est d'avoir le plus d'outils pour pouvoir permettre au vivre ensemble. Mais on sait très bien que des débordements de cadre sont des moments d'innovation, des débordements de cadre sont des moments de créativité, des débordements de cadre sont des tests qui peut-être ne marchent pas sur un premier coup, mais qui développent d'autres nouvelles choses. Donc à coup sûr, ce manager doit absolument pousser à ce que les gens puissent être en confiance à l'intérieur d'un cadre, et on revient à cette définition commune du cadre. Quand bien même il y a des règles qui sont édictées sans qu'il y ait de compromis possible. Et ce manager, il est là pour pouvoir faire vivre ce petit monde à l'intérieur, pour pouvoir développer une chose dont on parle beaucoup dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde du sport, c'est l'autodétermination, c'est d'être chef de son projet, c'est d'être acteur de son projet, c'est d'être autonome. Et le fait de pouvoir être en vivre ensemble à l'intérieur d'un cadre, mais de ne jamais avoir peur, peut-être d'y sortir, dans l'intérêt du collectif, dans l'intérêt du collectif, c'est de rendre les personnes autonomes. Et donc là, des fois, il y a un petit peu des paradoxes, puisque beaucoup de managers demandent à ce que les gens soient autonomes, et en même temps, dès que des gens sont peut-être des fois un petit peu trop autonomes, on pense que ce sont des brebis galeuses ou des gens qui ne font que sortir du cadre. Non, là, le manager doit être en confiance avec lui-même pour pouvoir avoir évidemment les indicateurs qui montrent que tout ça est fait pour l'intérêt général.
Accompagner ses collaborateurs pour leur permettre d'être dans le cadre, mais également de mieux en sortir, de prendre du risque, d'expérimenter et de leur autoriser effectivement un droit à l'erreur.
Exactement. Ce qu'on appelle la théorie essai-erreur, il ne peut pas y avoir d'essai sans erreur, et il ne peut pas y avoir de réussite sans erreurs préalables qui ont été permises par des essais qui se sont finalement rendus positifs.
Merci beaucoup Mathieu Blin de votre témoignage et regard porté sur ces questions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien joueur de rugby à 15, manager général et directeur exécutif. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.